Tantan. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi, 21h.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 4 octobre 2024. Une motion d'appui au tramway de la Capitale-Nationale, présentée par le député Tachereau et responsable de Québec solidaire en matière de transport, Étienne Grandmont, a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. La motion confirme l'appui ferme à la réalisation du volet tramway de la phase 1 du plan, présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle appelle également tous les partis représentés à la Chambre des communes à s'engager à maintenir le financement du projet par le gouvernement fédéral. Un rapport de consultation publique sur le développement du secteur nord-est d'Exposité a été déposé hier. Ce rapport met en lumière deux options qui feront l'objet d'une analyse approfondie. La première opte pour la consolidation du pôle Exposité. Il maintient de la vocation événementielle du site en tant que parc d'exposition et lieu emblématique de divertissement. Quant à la seconde, elle opte plutôt pour l'évolution vers un secteur mixte inspiré des grandes villes nord-américaines, intégrant espaces résidentiels et culturels tout en conservant une fonction événementielle. Les deux options vont être soumises à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec d'ici la période des fêtes. La Ville de Québec invite à opter pour le feuillicyclage lorsqu'il s'agit de gérer les feuilles mortes en automne. La Ville mentionne qu'il importe de réduire à la source la quantité de sacs de feuilles qui doit être traitée chaque automne et de réutiliser cette matière organique riche en nutriments. Placer ces feuilles comme paillis dans les plates-bandes pour protéger les végétaux pendant l'hiver est aussi une manière environnementale de réutiliser sans frais cette substance organique de qualité. Le Conservatoire de musique de Québec fête cette saison son 80e anniversaire. Plusieurs événements festifs sont prévus, dont trois concerts avec certains des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire classique, ainsi que l'un des plus célèbres opéras. Le premier concert, la Symphonie du Destin, aura lieu le 7 octobre prochain et sera dirigé par le nouveau chef d'orchestre du Conservatoire, Jean-Claude Picard. Le Conservatoire de Québec offre des programmes de formation en musique allant du primaire jusqu'au second cycle universitaire. La Société d'art et d'histoire de Beauport et les résidents et amis du site patrimonial de Beauport invitent la population à découvrir 60 photographies célébrant la valeur historique de ce site patrimonial à travers un parcours extérieur de 6 km tout le long de l'avenue Royale. Les 60 photos sont installées en devanture des maisons jusqu'au 10 novembre afin de célébrer le 60e anniversaire de déclaration de ce site patrimonial de Beauport. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Thank you. Certaines personnes se demandent par quel miracle les rives de l'étang Walden peuvent être couvertes de galets aussi finement polis. Mes concitoyens ont tous entendu la légende. Les plus anciens d'entre eux m'ont dit qu'ils l'avaient entendu dans leur jeunesse, selon laquelle, dans les temps anciens, des Indiens s'étaient réunis pour un powwow sur une colline qui se dressait exactement ici et montait aussi haut dans le ciel que l'étang actuel plonge dans la terre, et qu'ils usèrent alors, dit la légende, d'un langage fort profane, bien que ce soit là un vice dont les Indiens ne furent jamais coupables. Et tandis qu'ils blasphémaient ainsi, la colline fut prise de secousses puis s'effondra brutalement Seule une vieille squaw appelée Walden survécut à la catastrophe et l'on donna son nom à l'étang ainsi créé. Certains supposent que la colline s'effondra, les pierres qui roulèrent de ses flancs vinrent former les rives actuelles. Il est absolument certain, quoi qu'il en soit, qu'il n'y avait jadis aucun étang ici et qu'il y en a un aujourd'hui. Et cette fable indienne ne contredit en rien le récit de cet ancien colon dont j'ai déjà parlé, qui se souvient fort bien d'être arrivé ici avec sa baguette de sourcier, d'avoir vu une fine vapeur monter du sol tandis que sa branche de coudrier pointait constamment vers le bas et qu'il décida de creuser un puits exactement à cet endroit. Quant aux galets, nombre de gens persistent à croire qu'on ne peut guère expliquer leur présence par l'action des vagues contre les flancs de la montagne. J'observe, quant à moi, que les reliefs environnants sont pleins de pierres du même genre, à tel point qu'il a fallu les empiler pour faire des murs de part et d'autre du chemin de fer, là où ils passent au plus près de la rive.
Les anciens racontent qu'autrefois les Indiens avaient tenu là un powwow, sur la montagne dressée haut dans les cieux, d'une hauteur pareille à la profondeur de l'étang qui aujourd'hui s'enfonce loin dans la terre. La montagne trembla et soudain s'effondra. Seule une vieille squaw nommée Walden put survivre et c'est elle qui donna son nom à l'étang. Walden. Walden est un parfait miroir de la forêt. Rien d'aussi beau, d'aussi pur. Rien n'est aussi vaste qu'un lac à la surface de la terre. L'eau baigne la rive comme elle le faisait il y a 1000 ans. C'est l'œil de la terre où le promeneur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature. Et
souvenir et mon enfance. Nage dans les étoiles, limpide étang, nourri de pluie. Tu as 100 000 ans, apprends-moi la vie.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on aura un invité, Luc Gosselin, qui va venir nous parler du revenu de base. Avant ça, ben j'ai lu un extrait de Henri-David Thoreau, Walden, et vous avez probablement remarqué que c'est l'extrait qui a servi à la chanson de Richard Séguin, là, Walden, qui reprenait finalement la légende de la squaw de Walden qui avait survécu. Et anecdote intéressante, c'est que Thoreau, qui était fin observateur, disait qu'il était particulier, ce lac-là, qui avait comme apparu tout seul. Puis il observait les galets, puis etc. Et c'est que l'étang Walden, en fait, c'est un lac glaciaire. Il a été créé par le glacier. Et c'est quelques années, probablement Thoreau écrit son texte quelques années avant qu'il connaisse le géologue suisse Louis Agassiz. Louis Agassiz, c'est lui qui a fait connaître, qui a découvert la théorie là, de la glaciation, des grandes glaciations, puis il est même venu enseigner à Harvard aux États-Unis. Dans le temps de Thoreau, Thoreau a même connu Agassiz, il a même collaboré avec lui parce que Agassiz est un genre d'écologiste, biologiste, géologue. Et Thoreau lui apportait des spécimens, différents spécimens, des nids, des oiseaux morts qu'il trouvait, différents spécimens que... Agassiz appréciait la qualité du travail que Thoreau faisait. Et fait que Thoreau a dû apprendre la théorie de la glaciation quelques années après avoir... il aurait pu expliquer pourquoi faire que les galets qui voyaient un peu partout. En tout cas, petite anecdote sur Walden et sur Thoreau. Alors, avant de commencer avec Luc Gosselin sur le revenu de base... Des lectures que j'ai faites cette semaine, ma revue de presse. Le nouveau numéro de Philosophie Magazine est en kiosque. Et toujours, pour moi, c'est toujours intéressant, cette revue-là. Il y a un lien entre le travail que je fais ici, à parler de simplicité volontaire et de philosophie, parce que, comme je l'ai expliqué souvent, la simplicité volontaire, c'est un mode de vie philosophique. Et alors, on s'intéresse à la philosophie. Puis Philosophie Magazine, c'est un bon magazine. D'ailleurs, c'est écrit élu magazine de l'année en 2024. Il est vraiment bien fait, ce magazine-là. Il y a toujours un petit livret à l'intérieur de textes de philosophes. Et là, il y a un petit livre là, sur Spinoza qui explique, toujours avec une présentation au début. Puis aussi, dans le numéro, on a une entrevue avec celui qui est un peu le père de toute la théorie de protection des animaux, qu'on pourrait dire. Il appelait ça l'antispécisme. Peter Singer, lui, ce philosophe-là, a écrit son livre dans les années 70, et ça a fait, depuis ce temps-là, on en parle beaucoup, la réflexion, est-ce que l'homme, l'être humain, l'homo sapiens, est une espèce à part? Puis lui, il dit non, on est tous des animaux. En tout cas, il y a une entrevue, là, il est plus jeune, là, M. Singer, mais il dit qu'il conserve toujours les mêmes idées, mais que ça se sont un peu nuancées. Alors, c'est dans le dernier Philosophie Magazine qui vient d'arriver en kiosque, je vous recommande. Il y a aussi un hors-série Nouvelle Obs sur l'écologie, Penser l'écologie, le temps de l'action. C'est toujours intéressant, ces hors-séries-là, c'est bien fait. Puis ça fait un peu le point sur où on en est au niveau de l'écologie présentement. Alors, ça vient d'arriver en kiosque, le Nouvelle Obs hors-série, Penser l'écologie, le temps de l'action. Dans ma revue de presse, vendredi dernier, au moment où on se parlait ici à l'émission, l'ouragan Helene frappait les États-Unis. C'est un événement lié au changement climatique. On le voit, là. Des villes dans les Appalaches. On dit dans les Appalaches, une ville au complet engloutie par Helene. Il y avait dans le devoir d'aujourd'hui reconstruire après le passage d'Helene. Au total, au moins 200 personnes ont été tuées par l'ouragan Helene de la Floride au sud des montagnes de la Caroline du Nord, dont 61 dans le comté de Swanana et la ville voisine d'Asheville. C'est la Caroline du Nord, là, quand on dit la ville engloutie, là, c'est ces deux villes-là. Survolée mercredi par le président américain Joe Biden, Helene est ainsi le deuxième ouragan le plus meurtrier à avoir frappé les États-Unis en plus d'un demi-siècle, après Katrina en 2005. Des scientifiques ont lié son intensité au réchauffement des mers provoquées par les changements climatiques. Alors, on commence à voir les impacts des changements climatiques. Même cet été, on en a parlé, là, la tempête qui a frappé le Québec au mois de juillet, c'était l'événement le plus coûteux au niveau des assurances de l'histoire du Québec, plus que la tempête du verglas, plus que le déluge du Saguenay. Et justement, dans le devoir de mardi, là, c'est les assureurs. On refait la cartographie, entre autres, autour de Montréal. On identifie les zones inondables. Et à ce moment-là, si votre maison se trouve être dans une zone inondable, là, il y a toute une procédure, là, on dit, pour les gens habitant des zones à risque élevé, très élevé, on ne parle plus d'une possibilité, mais d'une certitude. L'accès à l'information est un aspect important de la nouvelle, selon lui. Il y a trop de gens aujourd'hui qui sont dans des zones à risque d'inondation et qui l'ignorent. Pour être couvert par ces assurances en cas d'inondation, il faut un avenant, une protection additionnelle spécifique dans son contrat. Si on n'a pas l'avenant, on n'est pas couvert et on n'est pas indemnisé par son assureur. Puis là, j'imagine que cet avenant-là, il n'est pas donné. Et on parle de revoir le code du bâtiment, puis de ne plus utiliser les sous-sols des maisons comme des zones habitables. En tout cas, c'est ça, c'est progressif. Hein, les changements climatiques, c'est plutôt des petits événements de plus en plus qui s'amplifient. Un autre article que je trouvais intéressant dans Le Devoir de jeudi, éviter de détruire les corridors écologiques, c'est possible. Ça aussi, là, on en avait parlé la semaine dernière, là, puis il y a un autre article. Il existe des moyens d'éviter de couper des liens de verdure essentiels pour la faune qui habite les bassins du Saint-Laurent. C'est que c'est ce que les experts, on a une expertise au Québec sur le, à McGill, sur le concept des corridors écologiques. Ce qu'on dit, c'est pas seulement qu'il faut préserver des zones vertes, mais il faut qu'il y ait une interconnexion parce que la faune se déplace. Puis s'il n'y a pas ces corridors-là, ça contribue à la perte de biodiversité. Donc, il faut réfléchir à la connectivité. Ça change un peu la perspective, parce que souvent on dit on a préservé des terres, on a des parcs, mais si ces parcs-là ne sont pas connectés, si on n'a pas de corridor écologique, ça pose problème. Alors ça, c'était dans Le Devoir de jeudi. Aujourd'hui, bien, toujours la chronique de José Blanchette, qui est toujours intéressante, la grande démission. Qu'elle parle, ça, son principal sujet aujourd'hui, c'est sur la démission de Marois Risky, puis l'implication au niveau des femmes, tout ça. Mais aussi, elle a reparlé du livre « Travailler moins ne suffit pas ». Ça, on va en reparler parce que c'est un sujet pour nous, en Simplicité volontaire, qui est important, le « Travailler moins ». Puis c'est « Travailler moins ne suffit pas », c'est un livre qui est sorti l'année dernière. L'auteur, c'est Mme Julia Posca, P-O-S-C-A. Et Mme Blanchette parle un compte-rendu de sa lecture de Mme Posca. Elle dit « Travailler moins, l'utopie ». Non, la semaine de 4 jours ne sauvera pas personne, nous démontre dans son essai Julia Posca. Ça ne fera que différer le pétage de coche. La question du travail ne peut être séparée de la production et de la consommation. C'est toute l'économie qu'il faut transformer, la démocratiser, produire en vue de finalités utiles pour la collectivité et en finir avec le consumérisme. Ça c'est la simplicité volontaire. Elle souligne que pour respecter le budget carbone de la planète, la moyenne d'heures travaillées des pays de l'OCDE, dont nous sommes, devrait être de 5 heures par semaine et non de 32 heures. Et notre silence est immense devant l'implacable asphaltage qui fera de nous une voie de garage. Certains choisissent le travail autonome et l'insécurité plutôt que le salariat, car, comme le souligne Posca, les salariés ne peuvent la plupart du temps choisir ni leur horaire de travail, ni la manière dont ils effectuent leur travail, ni surtout déterminer la finalité de ce qu'elles font. Autant dire que le salaire achète la subordination de l'employé. Et parfois, la seule chose qui reste à faire, c'est de lâcher le cirque et de chanter comme le phoque en Alaska. Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Alors, ça met un peu la table pour l'échange qu'on va avoir au retour de la pause musicale avec Luc Gosselin.
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait. en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Alors c'était Boris Vian, La complainte du progrès, qui est une magnifique chanson qui, déjà, c'était dans les années, début des années 50 qu'il a écrit cette chanson-là, qui on voit la consommation d'objets inutiles, qui, ça, c'est une chose qui est facile à éliminer et qui pas facile à faire en vue de vivre dans un monde qui est plus sain, plus écologique, rejeter le consumérisme.
Ça me fait penser, Jacques, il y a sur un mur dans Saint-Sauveur, quelqu'un qui a écrit une phrase de Boris Vian qui dit « Je n'ai pas besoin de gagner ma vie. Je l'ai déjà.
Bon. » Puis il y a aussi « Perdre sa vie à la gagner », hein, aussi.
Oui, ouais, oui.
Des classiques. Alors, enfin, justement...
Merci, Jacques, de m'avoir invité encore une fois.
Bien, justement, Luc Gosselin qui a commencé à nous parler du revenu de base. Alors, est-ce que tu as des choses nouvelles à nous dire par rapport au revenu de base?
Je voudrais faire une petite entrée en matière aussi. C'est que toutes les choses, les catastrophes que tu as mentionnées, puis toute la difficulté qu'il y a à se réorganiser là, comme société face à ce qui se passe, ça peut faire penser que le revenu de base, c'est peu là-dedans. Là. Comment ça joue là-dedans? J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu parce que le revenu de base pourrait s'insérer bien dans la réflexion concernant toutes ces choses-là. Enfin, oui. Mais les nouveautés, au Québec, la grande nouveauté, c'est un peu triste, c'est le fait que le projet de loi 71 là, concernant l'aide sociale et tout ça, soit un recul, en fait, par rapport... Parce qu'on ne sait pas beaucoup, mais c'était le plan 4 des suites d'une loi qui a été votée en 2002, ça. Puis le plan 3 a créé le revenu de base pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. Alors, c'est ça, c'était une grande avancée. Et puis, il y avait une évolution aussi au niveau du budget général de l'aide, de l'assistance sociale. Alors, là, donc, il y a un pas en arrière qui est en train de se faire. Ça, c'est triste. Au niveau des nouveautés, là, il y a ça qui se passe en ce moment. Et il va y avoir des organisés par le Front commun des personnes assistées sociales et par le collectif pour un Québec sans pauvreté, des manifestations à travers le Québec pour dire que ce projet de loi-là est insuffisant, en tout cas. Puis, il y aura certainement des discussions qui vont être faites, qui vont y avoir autour de ça. Puis là, je pense que c'est le 20 novembre, il va y avoir une grande manifestation à Montréal, après une qui va avoir lieu au Québec et dans d'autres endroits du Québec. Alors, donc, commençons par une chose un peu triste. Mais au niveau canadien, il y a une chose très importante qui se passe. Je pense qu'on en a parlé l'année passée, mais ça se continue. C'est qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, il y a un beau projet très, très articulé, très, très possible au niveau financier, au niveau social, au niveau aussi c'est sa possibilité. Donc, à l'Île-du-Prince-Édouard, ça serait pour toute l'île. Donc, ça serait une expérimentation. En fait, ils appellent ça une démonstration de la validité d'un revenu de base. Donc, ce serait quelque chose qui serait instauré et qui serait, analysé constamment. donc progressivement à part de la rétroaction sur ce qui se passe là. Et alors ce serait extraordinaire parce que ce serait probablement la seule société au monde où il y a une réflexion aussi avancée sur le revenu de base. Et puis au Canada, si jamais ça allait au bout, la proposition devenait la démonstration s'engageait, ben ce serait un peu comme ce qui s'est passé pour l'assurance maladie. Ça a commencé en Saskatchewan. Si ça se fait dans une province, les chances que ça se fasse dans le reste du Canada sont bonnes. Et là, nous, ça réveillerait notre rapport au revenu de base, qui est déjà un peu avancé grâce au revenu de base pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. En tout cas, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle au niveau canadien, malheureusement, ça ne suit pas au Québec encore. Mais je pense que c'est 50 municipalités où on a voté une résolution pour demander au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial, au gouvernement provinciaux, de penser à un revenu de base. Et puis ça, c'est... Parce que ce qui arrive, c'est que les municipalités, on le sait pas assez, ils ont des problèmes. Tu sais, le fédéral a l'argent, on y imprime l'argent si on en a besoin. Les provinces, les territoires et les Premières Nations ont les responsabilités sociales, c'est bien connu. Mais les villes, les municipalités ont des problèmes. Eux autres, ils ont la pauvreté devant les yeux là, tout le temps. Là. Et puis les difficultés économiques apparaissent là, au premier niveau. Alors donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, la réflexion est très avancée. Et aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent aussi, ailleurs au monde. Donc, ça bouge. Le revenu de base avance tout le temps avec une assez grande vitesse, je dirais, là, pour un sujet comme celui-là.
Je suis surpris de savoir qu'aux États-Unis, on pense à revenu de base parce qu'eux, ils n'ont même pas de régime public d'assurance maladie. Parce que dans le fond, le revenu de base, c'est un processus. Là. Et quand on peut, comme actuellement au Québec, d'ailleurs, on peut-être un des endroits les plus avancés en Amérique du Nord de ce côté-là, c'est qu'on a...
Excuse-moi, mais au monde.
Au monde,
ben,
ah oui.
Ben, le Québec, sauf erreur, est la seule société au monde, la seule législature, le seul Parlement qui a voté une loi de revenu de base, programme de revenu de base. Bon, c'est pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi, donc des handicapés sévères, là, qui ne peuvent pas travailler. Puis c'est pas une très grande quantité de gens. Je pense que c'est 84 000 personnes au Québec. Alors, c'est pas la fin du monde, là. Mais c'est dans l'esprit même du revenu de base. C'est-à-dire individuel. L'individualité du revenu de base est extrêmement importante. Que ça suive l'inflation, c'est extrêmement important aussi. Et l'autre chose, c'est qu'on puisse gagner de l'argent par-dessus. Parce que les assistés sociaux, vous savez peut-être, et aussitôt qu'ils ont gagné plus que 200 $, chaque dollar supplémentaire est enlevé de leur assistance, en tout cas bon. Alors donc, on est avancé là-dessus, là. Mais on est loin d'être engagé pour la finir, cette réflexion-là, avec ce qui est en train de se passer en ce moment.
Mais comme au Québec aussi, on a tendance à plutôt essayer d'avoir un revenu de base. C'est un cheminement, là, en le faisant à la pièce, avec des petits programmes à gauche et à droite pour... C'est comme un peu boucher des trous. Mais ça fait qu'on est l'endroit en Amérique du Nord le plus égalitaire.
Oui.
Il y a un lien aussi avec le revenu de base puis les inégalités de revenus. Là.
Mmh. Ah, tout à fait.
Et
on va parler de ça peut-être sur Piketty plus tard pendant l'émission.
Plus tard, peut-être oui. Dans la deuxième partie de l'entrevue.
Avec plaisir.
Et ça fait que c'est ça, il faut quand même reconnaître qu'au Québec, on a cheminé. D'ailleurs, le gouvernement Charest avait fait une étude là, avec le ministre. Je ne me souviens plus c'est quel ministre qui était très... C'était un chercheur à l'Université Laval qui était...
C'est sous Couillard. François Blais, qui est un spécialiste du revenu de base.
Ben
il a écrit
oui.
un livre sur le sujet
ben oui.
en 2002. Il a été publié en 2002, en même temps que la loi était votée. Et puis, c'est un spécialiste du sujet. Il a écrit un livre, un bon livre, l'un des bons livres en français sur le revenu de base. Bon, carrément. Et puis c'est lui qui a réussi à convaincre... plutôt Couillard que l'ensemble des ministres. Il m'a dit personnellement qu'il y avait eu un peu de difficulté à vendre l'idée au ministre des Finances. il y avait un blocage assez fort. Là. Mais Couillard l'avait mis, je pense, comme ministre des Affaires sociales en partie pour faire évoluer cette idée-là. On dirait bien, en tout cas, peu importe. François Blais s'est fait un plaisir lors de l'annonce de dédicacer un livre au premier ministre, le remerciant de s'être engagé dans cette voie-là. Oui, alors donc, la réflexion est relativement avancée, mais il faut la continuer. Et puis, je reprends un peu avec l'idée de toutes les choses dont on parlait tout à l'heure, dont tu as parlé en entrée de jeu avec la revue de presse, c'est que ça peut paraître une chose un peu petite ou du temps perdu de se mettre à réfléchir aux revenus de base dans le contexte actuel où les urgences sont climatiques, les urgences sont environnementales. Il y a des urgences sociales, bien sûr, mais plus larges, la santé. Bon, tous les problèmes, le logement et tout ça, bon. Ça peut paraître donc une chose petite à côté, mais ce qui arrive, c'est que pour faire avancer ces choses-là, ça a été mentionné d'une façon ou d'une autre dans ce que tu as lu, c'est que ça demande une réflexion de tout le monde. Ça demande une participation plus large à la réflexion. Et la première chose que donne un revenu de base, là, à toutes les fois que ça a été expérimenté, c'est bête, c'est que ça donne du temps. Le temps, ça donne du temps pour en parler, ça donne du temps, ça dégage du temps. On n'est pas à rocher tout le temps, là. Tout à coup, ça donnerait du temps et ça pourrait être très étonnant la quantité de réflexion qu'il y aurait. Non, tout à fait, là, ça se ferait... Moi, je suis convaincu que ça se ferait naturellement. Donc, l'humanité est plutôt bonne que mauvaise, selon moi. c'est ça, là. Se donner du temps, se donner le temps de penser, de réfléchir et de se parler sur les sujets importants. Et ça serait une façon... Il faudrait se payer, ça.
Bien, le temps, c'est une donnée fondamentale, je ne sais pas si on peut appeler ça une donnée, quand on parle de simplicité volontaire, là, c'est ça l'idée, là, c'est de retrouver sa vie, de se redonner du temps. Puis d'ailleurs, on va avoir Mme Le Maire là, dans le mois de novembre, là, Christine Le Maire qui a écrit un livre sur le temps. Et c'est un sujet qu'on aborde souvent, notre lien au temps. D'ailleurs, en passant, notre thématique cette année pour l'émission En toute simplicité, c'est les liens, l'importance des liens dans nos vies. Puis, aujourd'hui, là, on parle du revenu de base, c'est le lien entre l'argent puis le temps, là, qui, quand on parle de revenu de base. Là.
Ça me fait penser, il y a une chose qu'on m'a demandé une fois. Quelqu'un à l'Université d'Ottawa, une professeure là-bas, m'a demandé de rencontrer ses étudiants qui étaient sur le sujet de la sécurité alimentaire. J'avais jamais pensé à la relation entre le revenu de base et la sécurité alimentaire. Moi, je suis prêt à parler de revenu de base à n'importe qui. Là. Mais la réflexion qui m'a mené à cette rencontre-là, c'est que tout à coup, j'ai pensé à la quantité de population qui vit de la terre ou qui on a dépassé 50% de gens citadins dans l'humanité, mondialement. Puis dans nos pays, c'est plutôt de l'ordre entre 70 et 80%. On vit en ville. En ville, c'est avec de l'argent qu'on achète la nourriture, le logement et tout ça, les déplacements. Il n'y a pas d'autre moyen d'en avoir. Tandis que juste 100 ans plus avant, même entre les deux guerres, là, puis certainement au 19e siècle, il y avait tellement de gens qui étaient dans une situation de connecter avec quelqu'un, vivant de la terre, premièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ou étant travaillant pour des gens qui avaient des propriétés terriennes. Et donc, en partie logés, nourris, en partie... alors, il y avait moins de besoin d'argent pour acheter ces choses-là. Ça s'achetait avec du temps.
C'est pour ça qu'il va falloir revenir un peu à ça, là, une espèce de capacité d'autarcie des gens, recréer des liens, le tissu social, comme on dit. Là. Mais on en parlait un peu au début aussi, on va devoir aussi regarder qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on... Par exemple, il y a eu des progrès, là, l'humanité a progressé là, au niveau, on a parlé de la mortalité infantile qui était énorme là, au 19e siècle. Et, aujourd'hui, la mortalité infantile, il n'y en a presque plus. Là. Les gens mourissaient au 19e siècle, là, mouraient d'infections bêtes. Là, aujourd'hui, on a les antibiotiques. Donc, il y aura une réflexion à avoir, mais il va y avoir probablement éventuellement envisager une diminution de la consommation matérielle puis de l'ampleur de tout le matériel qu'on utilise pour faire fonctionner. Écoute, on va prendre une petite pause musicale, puis on poursuit au retour de la pause.
Tout à fait.
Birds flying high, you know how I feel.
Hey, c'est Simone.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
c'était I'm Feeling Good de Nina Simone. Je dis deux petites anecdotes, ben, liées à ça, c'est que pourquoi j'ai passé cette chanson-là, c'est que c'est le 50e anniversaire du Café Temporel hier il y avait un petit événement là, à la Maison de la Littérature pour souligner le 50e anniversaire du Temporel. Puis j'ai dans les anecdotes que j'ai entendues sur le Temporel ces jours-ci, il disait qu'il y avait un temps que Nina Simone jouait continuellement au Temporel parce que il y avait comme genre 5 CD qui faisaient circuler pendant la journée. Puis un de ces CD-là, c'est un CD de Nina Simone. Ça doit remonter dans les années 80 ou 90. Là.
C'était écrit en 76, à peu près, 75, il me semble.
Oui, mais en tout cas, l'anecdote, je pense que ça se passait dans le temps qu'il y avait encore des CD, là, dans la fin des années 80, là, quelque chose comme ça.
Je suis allé plusieurs fois au tout début.
Puis, c'est ça. Puis, deuxièmement, ben ça, j'en ai parlé beaucoup à l'émission, c'est que cette chanson-là fait partie de la trame sonore du très beau film « Les jours parfaits ». Qui doit là, probablement être disponible là, sur une plateforme quelconque, là, puis que je vous recommande tellement. D'abord, la trame musicale est vraiment superbe. Puis c'est un beau film sur la Saint-Pierre volontaire qui fait du bien. Moi, je l'ai vu deux fois, puis je regrette pendant qu'il était à l'affiche dans les salles de ne pas être y retourné une troisième fois. Mais voilà. Alors, pour ça.
Quel est le titre du film?
Les jours parfaits.
Les jours parfaits, merci.
Oui, oui. du célèbre cinéaste que j'oublie le nom, qui c'est lui qui a fait Les ailes du désir. Là,
Ah oui?
Oui, un grand cinéaste. À mon avis, ça va devenir...
C'est lui qui a fait Paris, Texas aussi, non?
Oui,
c'est
oui. Ça, hein? Ça va devenir un classique du cinéma, ça, à mon avis, Les jours parfaits. Puis, en tout cas, mais dans la trame sonore, justement, il y a cette pièce-là de Nina Simone. Ah oui. Magnifique. Bon, alors revenons au revenu de base.
Oui, avec plaisir.
Ouais.
Mais d'ailleurs, là, je suis très content que cette émission-ci parle pour la troisième ou quatrième fois maintenant avec moi.
Oui.
Au moins troisième fois de revenu de base, parce qu'il y a une connexion tellement évidente depuis toujours pour n'importe qui s'intéresse au revenu de base, là. Que ça, on pense que ça résulterait sur une plus grande simplicité volontaire. On pense que ce serait un des résultats normal et naturel d'un revenu de base.
Ben oui, parce que ce qu'on ferait avec le revenu de base, on viendrait déconnecter le lien entre le travail puis le revenu. Puis le travail devrait être vu comme un plus dans nos vies. On travaille pour faire quelque chose qu'on a le goût de faire, qu'on a besoin de travailler. Puis quand on limite le travail à tout simplement gagner sa vie, il y a quelque chose qui est malsain là-dedans. Ce matin, par hasard, là, je regardais une espèce d'info-pub, on peut appeler ça comme ça, sur le Québec bio. Et là, on voyait une productrice de lait bio là, avec ses vaches, puis... Elle avait tellement l'air heureuse, cette personne-là. Je pense qu'elle ferait ce qu'elle fait, même si elle n'était pas payée. Là. elle parle de comment c'est produire du lait bio. Ben, tu t'es connecté avec la nature, tu sens que tu fais de quoi de bien. Elle parle de ses vaches dans l'info. Elle parle de mes filles quand elles vont dans le champ. Puis, c'est ça. L'idée du revenu de base, c'est que tu as des gens qui... peuvent pas nécessairement gagner leur vie pour différentes raisons. Ça peut être des artistes, des philosophes, des penseurs, toutes sortes de... Et là, on dirait, dans le fond, c'est pas que tu es un paresseux, parce que c'est parce que c'est pas payant ce que tu fais, là. Alors, on dirait, oubliez ça. Puis d'autres qui ont... On a le goût de travailler. Tout le monde veut travailler. C'est pas qu'on veut pas travailler. Puis il y aurait quand même, c'est progressif. Je pense qu'on ne pourrait pas dire qu'il n'y a plus d'incitatif au travail, là, mais en tout cas, on viendrait en tout cas un peu mettre un peu de distance entre l'idée que le travail, c'est seulement pour gagner sa vie. Là.
Je dirais une chose un peu bizarre peut-être, mais ça, rétrospectivement, ça nous ferait et ça nous ferait aimer le travail qu'on fait et ça nous ferait y retourner avec plaisir. À cause de la chose suivante, les gens qui ont des projets comme ça, que ce soit très personnel, artistique ou des choses comme ça, ou bien d'entrepreneurs, ou bien de quelque chose comme ça, mais qui ne peuvent pas s'y consacrer parce qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils gagnent leur vie, il faut qu'ils payent l'hypothèque et tout ça, là, ben, ils ne savent pas jusqu'à quel point ils perdent quelque chose à ne pas travailler sur cet art, travailler sur ce projet d'entrepreneur, ou des choses comme ça. Ils ne savent pas parce qu'ils ne l'ont pas essayé. Alors, ils restent avec la pression du travail, le fait qu'ils n'aiment pas leur travail parce qu'ils ne font pas ce qu'ils souhaiteraient faire. Mais ils l'auraient fait pendant 2 ou 3 ans. Ils se seraient rendus compte, oups, bon, je ne suis pas un si grand musicien que ça. J'aime la musique, puis je suis bon en musique. Mais de là à gagner ma vie avec ça, de là à vendre ma musique, non, c'est trop. Puis ils retourneraient peut-être à un travail où ils reviendraient ressourcés. Ça, j'aimerais qu'on considère ça aussi. C'est-à-dire que ça ouvrirait la possibilité de faire des essais qu'on ne ferait pas autrement. Et ça, faire les essais qu'on doit faire pour être content de faire ce qu'on fait et d'être heureux tout simplement d'exister puis de travailler puis de bouger puis de faire des choses, c'est d'aller au bout de certains désirs. Si on va pas au bout, on est enfermé à ce moment-là dans un travail, dans une obligation qui nous fait détester quelque chose qu'on ne détesterait pas tant que ça. S'il n'y avait pas la pression d'y être enfermé.
Puis ça permettrait aussi de revenir au communautaire. Là. Et ça aussi, là, on parle de... On a beau dire qu'on vit dans des sociétés riches, ce qu'on ne réalise pas, il y a un côté caché de notre richesse, c'est la pauvreté communautaire. Les gens sont tellement isolés, individuels. Alors, ça va bien pour des gens qui fonctionnent bien, là, qui ont un gros, un bon revenu, mais tous ceux qui sont moins vraiment marginalisés, c'est de la grosse misère, là. Et même, je pense que les gens qui... Puis c'est pas nécessairement des gens qui sont pas productifs ou paresseux. Pour toutes sortes de raisons, ils ont pas dans un bon emploi ou il y a toutes sortes de raisons. C'est individuel, là. Mais je pense que les gens, les pauvres, sont plus vivent mieux dans des pays sous-développés qu'ici. Au moins, ça, moi, j'ai vu ça, en tout cas, ailleurs, là, que les sociétés sont tellement tissées serrées qu'il n'y a pas un gros écart tant que ça entre le plus riche du village puis le plus pauvre. Puis le plus riche, lui, il est propriétaire, puis il a probablement des terres, puis c'est un agriculteur, mais et tout le monde, il y a une intégration de la société. Alors aujourd'hui, le communautaire, c'est difficile.
Et probablement que les plus riches dans des sociétés plus près de la terre, en quelque sorte, là, partagent plus leur richesse qu'ici, en fait. Là. Parce qu'ils sont plus dans une situation de vivre ensemble directement. C'est comme je disais tout à l'heure concernant la sécurité alimentaire, c'est-à-dire que c'est des sociétés où il y a moins besoin d'acheter avec de l'argent la nourriture, le logement et tout ça. Il y a plus du partage qui se fait automatiquement dans la symbiose, en quelque sorte, des gens les uns avec les autres. Et puis, la différence est en grande partie là. Une chose, moi j'ai travaillé en philanthropie du temps où je travaillais. Quelques fois, j'ai travaillé en philanthropie à la Fondation Universelle Laval, à l'Orchestre Symphonique, ailleurs. Là. Je suis sensible aux statistiques concernant la philanthropie. Proportionnellement à leurs revenus, les plus pauvres d'entre nous donnent plus que les plus riches. Ils donnent carrément les dons, là. Évidemment, c'est des petits montants. Mais en proportion avec leurs revenus, ils donnent plus que les gens plus riches. Parce que quelqu'un qui donne, par exemple, 10 % de son revenu de 10 000 $ par année, qui arrive à donner quelque chose comme 1 000 $ de façon ou d'une autre en nourrissant quelqu'un ou des choses comme ça, bien, quelqu'un qui gagne 100 000, il donnera pas nécessairement 10 000 ou 1 million, il donnera pas nécessairement 100 000.
Ouais. Ouais.
Enfin bon, c'est un détail comme ça, là, mais ça fait partie des choses. Je crois que si on avait un revenu de base, on serait plus au courant de ce genre de choses-là. On en discuterait plus. On aurait plus d'occasion donc de voir toutes sortes de choses comme ça aussi par rapport à l'environnement, par rapport à nos besoins pour faire une vie décente. Là, une évaluation, une meilleure évaluation de ce qu'il faut, de ce dont on a besoin. On serait moins poussé par la pression des publicités et tout ça, puis du rapport aux autres et tout ça. Il y aurait sans doute moins de pression.
C'est là qu'on revient à Piketty, dont on parlait tout à l'heure. Là.
Oui.
Puis qui, lui, c'est carrément... il dit que les changements climatiques, ça va être par les réductions des inégalités quand ça va passer. Il faut passer par là. Puis, il parle à un moment donné dans son livre, qui est très bon, une brève histoire de l'égalité,
oui,
qui est plus facile à lire que les autres aussi. Les autres, c'est des briques de 1000 pages, tandis que ça, c'est plus abordable.
Oui.
Puis, il l'a écrit justement pour un public plus général. Puis, à un moment donné, au début, il dit « La population mondiale et le revenu moyen, les limites de la croissance. » Pour prendre conscience de l'ampleur des transformations historiques en jeu, il faut également rappeler que la population humaine et le revenu moyen ont tous deux été multipliés par plus de 10 depuis le 18e siècle. La première est passée d'environ 600 millions d'habitants en 1700 à plus de 7,5 milliards en 2020, alors que le second, autant que l'on puisse le mesurer à partir des données historiques imparfaites dont nous disposons sur les salaires, les productions et les prix, est passé d'un pouvoir d'achat, exprimé en euros de 2020, inférieur à 100 euros par mois et par habitant de la planète au 18e siècle, à environ 1000 euros par mois et par habitant en ce début du 21e siècle. Alors, C'est ça aussi.
Toute la
là,
population.
Toute la population mondiale, là, les 8 milliards.
Des
les
milliards 7... de milliards, ça. Oui.
Fait que c'est, quand on parle, c'est que c'est la pression sur les, la biodiversité, sur les ressources, là, c'est 10 fois la population puis 10 fois le revenu.
Et c'est pour ça que maintenant, on s'est mis à parler d'anthropocène. Dans le sens que notre action sur la nature, notre participation à la nature est tellement importante et un peu dangereuse, hein, avec les produits qu'on utilise, qu'on est en train d'influencer. C'est pour ça qu'on influence le climat. Ça, c'est que notre participation à la partie vivante de la surface de la Terre est devenue tellement importante qu'elle a un effet sur l'ensemble de la nature. Encore une fois, je répète, la partie vivante de la nature, c'est juste une petite couche à la surface de la Terre, là, où il y a de l'oxygène, il y a de l'eau et tout ça. Autrement, c'est des rochers, puis c'est le reste de l'univers, là. Alors donc, c'est là où on est rendu. Donc, on agit dessus directement, là. On n'est pas rien qu'un voyageur là, qui va d'une place à l'autre. Là, on est vraiment des participants directs à ce qui se passe dans la nature. Et puis, d'une façon, à cause des produits qu'on a créés et qu'on utilise, d'une façon qui influence énormément l'équilibre qu'il y avait jusqu'à maintenant. Entre nous et notre participation à la nature.
Puis on le voit là avec le dossier des caribous, là, par exemple, là, où on refuse, même le ministre de l'Environnement est même allé, ça c'est incroyable, le ministre de l'Environnement est allé à Ottawa pour demander de ne pas protéger le caribou. C'est comme parade, ça n'a pas de sens. Là. Et c'est comme si la nature, c'est l'économie qui compte. La nature, ça compte pas. C'est comme un gros bulldozer, puis... On continue. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Oui, mais d'ailleurs, c'est une chose qui s'est passée au niveau de l'économie, particulièrement aux États-Unis, mais pas rien qu'aux États-Unis, dans l'esprit libéral, ultra-libéral, là, c'est qu'on s'est mis à donner une valeur monétaire à des choses qualitatives. Tu sais, depuis longtemps, on met des chiffres de monnaie sur les produits, les services et tout ça, là. Mais là, depuis 15, 20, 30 ans, peut-être 50 ans, on s'est mis à essayer de calculer la valeur des choses qualitatives, de la qualité de vie, l'indice de bonheur. Même des choses comme ça, on est en train d'essayer de calculer, là, on est rendu un peu loin. Mais c'est le genre de choses, je répète, auxquelles il faut penser ensemble. Parce que les changements sociaux que ça nécessiterait pour rétablir l'équilibre et tout ça, sont tellement extrêmement importants. Ça va être difficile. Ça va être difficile en grande partie de sortir de notre confort, parce qu'il reste, ça a créé du confort, ça, tout ça, là.
Oui, puis tu sais, comme quand on dit le caribou, par exemple, bien, c'est des gens, oui, il y a des gens qui ont besoin de la forêt pour gagner leur vie. Alors, il faut penser à ces gens-là aussi. Il va falloir se solidariser. Puis quand on fait des choix de revoir, là, peut-être, je sais pas, là, il faut qu'il y ait des discussions puis qu'on s'entraide tous, là.
Oui, bien, notre rapport avec les peuples autochtones aussi, là, est en train de, en grande partie, forcer cette discussion-là. Parce que là, donc, on est devenu forcé, bien sûr, de tenir compte de leurs besoins, de leur rapport à la terre, de leur rapport à la richesse qui a été créée, même s'ils participent pas comme nous l'avons fait, comme nous l'avons la créons. Alors ça force la réflexion, et ça va faire partie des choses extrêmement importantes probablement à l'avenir, ça. Et pas rien qu'ici au Québec, on en parle régulièrement, là. Mais ailleurs au monde aussi, il y a des tas et des tas de peuples autochtones à travers le monde, là. Et en Amérique du Sud, il y en a des tas, là, différents. Hey, j'entendais un autochtone du Manitoba dire qu'il y avait 684 nations au Canada. 684! C'est du monde, ça, là. C'est beaucoup de, non, c'est beaucoup de culture, c'est beaucoup de langues, c'est beaucoup de... C'est toute une vie, ce qu'il faut se mettre à devoir, qu'on doit respecter après avoir voulu l'écraser.
Mais malheureusement, Luc, l'émission est terminée.
Non.
Mais on va falloir...
On a...